J'ai dirigé pendant de nombreuses années un cabinet de communication, une agence de communication à Toulouse. Donc je suis corse, mais mon papa a vécu dans l'Aveyron, s'est marié avec ma maman. Et donc je suis né dans l'Aveyron. Après, j'ai fait mes études à Toulouse. Après avoir fait mes études à Toulouse, je suis allé à Bordeaux. Puis je suis revenu à Toulouse. J'ai créé une agence où il y a eu jusqu'à 50 personnes, une agence de communication. La particularité de cette agence, c'est que j'avais engagé dans une démarche de responsabilité sociétale, de développement durable, dès 2001. Et donc, on a été très rapidement experts des questions de comment communiquer sur les sujets liés à la transition, au développement durable et à la RSE pour la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qui nous a permis d'explorer toute la question de comment on fait pour engager des individus qui ne veulent pas faire ce qu'ils devraient faire et comment, évidemment, les engager à respecter ou suivre des sujets liés au climat, liés aux déchets, liés à la mobilité, liés au respect des pratiques, liés évidemment à la transition, aux éco-gestes, à l'éco-responsabilité, voilà, enfin tous les sujets que vous connaissez de fait par votre environnement et votre patrimoine naturel, hein. Je vais noter toutes les activités que vous menez sur le territoire, hein. Randonnée, ski, escalade, voilà, aviron, VTT, etc., etc. Donc, à un moment donné, se pose la question de comment faire que pour tous les gens qui viennent pratiquer ces sports en montagne, ben, soient respectueux à la fois des publics, à la fois des habitants, et voilà. Et donc, notre expertise s'est développée à un moment donné sur comment faire pour qu'on arrive à faire des choses que les gens ne feraient pas spontanément, trier ses déchets, prendre le vélo, etc., etc. Et donc, on a développé une expertise dès 2006, en fait, sur l'engagement des individus, avec une méthode que je n'ai pas inventée, hein, qui est une méthode que vous allez découvrir, que je vais vous faire partager, qui est ce qu'on appelle la communication engageante. Bon, sur tourisme. Vous connaissez ça, il y a des questions de surtourisme avec Nathalie, elle m'expliquait ça dans le parcours qu'on a fait ensemble. Donc des questions de surtourisme, évidemment, donc c'est un sujet. À nouveau surtourisme, et puis bah, évidemment confrontation avec bah, le territoire, les publics, etc., qui créent des frustrations, qui créent des agacements, qui créent bah, des conflits d'usage, hein, vous connaissez le sujet, bah, qui crée des déchets, évidemment. Hein, voilà, donc, la conséquence, c'est pas que les gens sont, ou les agriculteurs, ou les éleveurs, ou les habitants de certains territoires peuvent être en conflit, et évidemment, du coup, voient d'un mauvais œil arriver des touristes venant de Lyon, voilà, à profiter du lac. À des moments, mais aussi ça a des impacts sur le dérèglement climatique, la crise climatique, évidemment, la gestion des déchets, voilà. Tous les sujets que vous connaissez tous par cœur, en tout cas ces dernières années. Et en fait, pourquoi nous n'agissons pas, c'est la question qu'on va se poser, que vous vous posez. Et je vais vous donner quelques éléments de compréhension ou des clés pour que demain, dans vos pratiques de communication, en tout cas les vôtres de différentes activités, hein, les fédérations, les communes, les communautés de communes, les agglos et les acteurs les fédérations, comment on peut accompagner les changements de comportement et comment faire pour que l'individu ne reste pas passif ou impassible, évidemment tel qu'on le voit sur cette photo, et que quelque part, il devienne acteur. Par exemple, là, j'avais pris cette image-là. Bienvenue chez nous en montagne, comme chez vous, adoptez des bonnes pratiques. Et on sait bien que l'individu, en fait, bah, quand il change d'environnement, bah, il ne fait pas toujours ce que on aimerait qu'il fasse. Alors, on va regarder une petite vidéo qui dure 4 minutes, qui est une expérimentation de ce qu'on appelle la communication engageante. Cette vidéo que vous allez voir, elle simule avec des comédiens comment on va dire, le nom ou l'invitation à adopter des gestes, je ne vous dis pas lequel, C'est évidemment fait avec des comédiens, mais dans la réalité, cette expérimentation a été faite avec des vrais gens. C'est une expérimentation qu'on appelle de psychologie sociale, faite avec des vrais gens. Ils ont comptabilisé, donc à la fin de l'expérience, vous allez voir, je vous montrerai un slide avec des chiffres de comment les comportements ont évolué. Mais ce que vous allez voir en vidéo, cette expérience est très très connue, elle s'appelle le biais perdu. Certains peut-être d'entre vous la connaissent. Si vous ne la connaissez pas, vous allez pouvoir la découvrir et puis la faire partager par la suite. Donc à la fin, ils comptabilisent, évidemment, ça nous permet d'avoir des chiffres de changement de comportement. Vous allez voir qu'ils sont pour le moins impressionnants. Mais évidemment, la vidéo, c'est avec des comédiens parce qu'on n'a pas pu filmer des vrais gens. Cette expérience de psychologie sociale a été faite de nombreuses fois. Celle-là, c'est la plus connue par l'un des experts français que je connais, qui est d'Aix-Marseille, qui s'appelle Robert-Vincent Joule et qui a monté cette expérience. Donc, regardons la petite vidéo que vous commenterez juste après. À tout de suite.
Trouvons un billet sur le sol et que nous savons qu'il a perdu, le rendons-nous toujours à son propriétaire? Plusieurs personnages sont impliqués dans cette expérience. Il y a d'abord Monsieur Dupont, qui a tendance à perdre ses billets. Et voici Madame Delalesse, qui est très attachée à son chien, un charmant basset artésien. N'oublions pas enfin Monsieur Duchemin, qui est un petit peu perdu. D'ailleurs, il n'interviendra pas tout de suite. Tout le monde est prêt? Alors allons-y. Suivons d'abord cet inconnu. Très bien. Alors essayons avec un autre inconnu. Dans ce contexte, où il y a un témoin, Robert Vincent Joule a observé que 100% des passants redonnent le billet perdu à son propriétaire. Cette fois, la rue est déserte. Mais M. Dupont est toujours là. Et toujours aussi distrait. Le comportement des passants n'est plus tout à fait le même. Lorsqu'il n'y a aucun témoin, on observe que 30% des passants seulement redonnent le billet perdu à son propriétaire. Faisons maintenant intervenir M. Duchemin. Il attend les passants à l'entrée de la rue.
Pardon, mademoiselle.
Oui.
Je m'excuse, je suis un petit peu perdu. Je cherche la place Stanislas.
Bon, alors, c'est tout ça. Vous allez juste contourner la cathédrale.
Oui.
Une fois arrivé de l'autre côté, vous aurez une grande place. Sur votre droite, vous aurez des arcs et ça sera à droite.
Après les arcs, je vais à droite.
Après les arcs, à droite. Vous l'avez
vu. Ah, vous êtes très gentil. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous.
Merci.
Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
cette intervention va-t-elle avoir de l'influence sur le comportement des passants ?
Merci beaucoup. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Décidément, la petite phrase de Monsieur Duchemin change beaucoup de choses.
À partir de là, vous tournez à droite et vous allez toujours tout droit, vous tombez dessus.
Bah, j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous.
Merci.
Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Merci, c'est gentil. Bonne journée.
Bonne journée, merci. Au revoir.
Maintenant, c'est 69% des inconnus qui redonnent le billet perdu. Selon les circonstances, donc, ces passants se sont comportés de façon bien différente. Pourtant, tout s'est déroulé dans la même rue.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris ? Première condition expérimentale, il y a quelqu'un qui vous regarde, et donc, je laisse finir la musique. Voilà. Quelqu'un vous regarde, et là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Oui.
Donc, quelque chose de bien.
Voilà. Alors, comment on pourrait dire autrement que sous la pression ? Le jugement, oui. Comment on pourrait appeler ça aussi ? Qu'est-ce qui est mobilisé chez l'individu qui, sous le regard de quelqu'un, fait ce qu'il, évidemment, on lui demande implicitement de faire ? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. La pression sociale, l'influence, ouais. Les règles de bonne conduite, sa conscience, oui, tout à fait. L'estime de soi. Ça veut dire, bravo. Hein. Si j'avais à remettre des points, je mettrais un point là parce que c'est le mot que je voulais entendre. Voilà. Donc l'estime de soi, c'est-à-dire qu'en fait, l'individu a toujours envie d'être à ses yeux, puis aux yeux des autres, quelqu'un de bien. Enfin, la plupart. Hein? Et donc, effectivement, c'est la question de l'estime de soi qui rentre en jeu. Donc, et quand il n'y a personne, quel est le pourcentage de gens qui, du coup, rendent le billet ? Est-ce que vous vous souvenez ? 30%. Donc, il faut savoir que dans le monde, il y a 30% d'altruistes. Entre 20 et 30% d'altruistes. C'est-à-dire, spontanément, des gens qui vont faire soit ce qu'on leur demande explicitement ou implicitement. Là, la demande est implicite. Hein. Il y a 30% d'altruistes dans le monde. Voilà. Et c'est tout. Donc, on pourrait dire que 70% sont des égoïstes. Voilà. Ouais. Ou des, parce qu'ils ramassent le billet, des voleurs. Donc, alors des opportunistes, voilà, toutes des qualités très utiles. Hein. Voilà, donc les gens que vous recevez, et puis vous-même ici, hein, il y a 30% d'altruistes qui font spontanément ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà, dans l'entreprise, les pratiques, garde-toi au bon endroit. Prends tes déchets, les laisse pas en montagne. Quand tu vois une clôture ouverte, bah, tu la refermes. Voilà. Il y en a 30% qui spontanément, alors on ne sait pas toujours quels ils sont, évidemment, ça peut changer, mais globalement, il y a 30% d'altruistes dans le monde. Et 70% d'opportunistes ou de voleurs. Okay. Et du coup, quand on a un petit personnage qui dit un certain nombre de choses, Là, quel est le pourcentage de gens qui rendent le billet? 60, 69, exactement. Donc, dans les faits, il n'y a pas 70% de voleurs. Je cherche les voleurs, en fait, dans la salle, là. Il y en a 30% à peu près. Et la psychologie sociale, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les... La psychologie sociale, ce sont les experts qui travaillent sur la question du comportement de l'individu dans son groupe et quelle relation il entretient avec les membres de son groupe et comment il agit seul dans son univers d'appartenance et communauté. La psychologie sociale nous apprend depuis 80 ans, parce que les, ouais, presque 100 ans maintenant, en tout cas aux États-Unis, nous apprend que ben, il y a à peu près 30% d'altruistes, et entre 20 et 30%, les chiffres varient peu en fait, des fois c'est 20, des fois c'est 30, donc il y a 20 ou 30% d'altruistes et 20 ou 30% de voleurs. Ou psychopathes. Ou sociopathes. Vous voyez ? Alors, heureusement, tous ne passent pas à l'acte. Est-ce que je peux dire un truc qui ne va pas faire plaisir aux élus ? C'est possible, hein ? Oui, c'est possible. Ils ont l'habitude, de toute façon. Hein, c'est le... Donc, chez les élus, mais chez les décideurs d'entreprise, chez les présidents d'associations, il y a des sociopathes et des psychopathes. C'est-à-dire, ils écrasent l'autre pour réussir, quoi. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas le cas ici, évidemment, hein, mais en Haute-Garonne et en Occitanie, des élus sociopathes et psychopathes, il y en a plein, quoi. Voilà, ils sont tous, on les a tous concentrés. Mais c'est pareil pour les dirigeants ou les managers, vous voyez ? Ceux qui écrasent l'autre, voilà. Ça, ce sont des sociopathes ou des psychopathes. C'est les 30% de gens qui, pour réussir, n'ont pas de problème pour écraser l'autre. Alors, écraser l'autre ou, en fait, réussir au détriment des autres, quoi. Voilà. C'est ce que nous apprend la psychologie sociale. Donc ça veut dire qu'en matière de communication, pour faire engager des bonnes pratiques, ben, vous avez 20 ou 30% des gens, de toute façon, qui ne feront pas. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une frange de la population sur laquelle vous ne pourrez rien. Et ce n'est pas toujours ce que l'on croit, hein, évidemment. Mais en tout cas, on a ce pourcentage-là d'individus qui ne fera pas. 20-30%. Et donc, ça donne ça en termes de chiffres. Je suis obligé de mettre mes lunettes pour voir les chiffres. Pardonnez-moi. J'affiche tout comme ça. Donc, la fonction contrôle, c'est quand il ne se passe rien. Donc, on a 30% de gens, nos altruistes, là, qui sont là. Okay ? Remerciement, quand on dit merci, quand le monsieur qui accueille a dit merci, on a 43% quand même des gens qui restituent le billet. Quand on dit « vous m'avez rendu un grand service », on a 48%. Quand on appelle, quand on lui dit « vous êtes serviable », ce qu'on appelle un étiquetage spécifique, ça vous oublierez bien sûr, on monte jusqu'à 69,5. Et quand on dit « vous êtes vraiment quelqu'un de bien », la mesure donne presque 80%. Donc, il suffit, en fait, de dire à vos publics bah, « vraiment, vous êtes quelqu'un de bien, donc vous avez bien fait de fermer ». Voilà. Donc ça veut dire que sur chacun des utilisateurs de la montagne, de vos activités, etc., il suffit de mettre quelqu'un qui accueille les gens et dit bah, « oh, vraiment, vous êtes quelqu'un de bien ». Et derrière, ils vont ramener les déchets, ils vont faire attention à l'autre, ils vont dire bonjour à l'éleveur en montagne, sans problème. Vous voyez ? Bon, ça va coûter un peu cher. Voilà. Bon. Donc Nathalie et Marjorie commencent à s'inquiéter parce que d'ici il faut que le département ou la région mette. Mais voilà, on voit que effectivement, il n'y a que au final 20% de gens qui, même si on leur dit vous êtes quelqu'un de bien, de toute façon ils savent qu'ils sont pas quelqu'un de bien. Et l'estime de soi, ils s'en foutent un petit peu. De toute façon, ce qui compte, c'est que ils puissent venir se baigner au lac et puis laisser leurs déchets, c'est pas leur problème, et se garer n'importe comment. De toute façon, tout ça m'appartient. C'est le bien commun. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut agir. On peut agir sur. Je vais utiliser un mot que j'aime pas trop, mais sur ceux qui sont entre les deux là, ce qu'on pourrait appeler le ventre mou, voilà. Où là, il faut des fois un petit coup de pouce. Donc le petit coup de pouce, c'est ce qu'on pourrait appeler les nudges là. Voilà, ça s'appelle les nudges. Je sais pas si vous. Donc ça, c'est un nudge, c'est-à-dire un petit coup de pouce pour faire que l'individu, bah, du coup. Nos 30 plus nos 50 fassent ce qu'on leur dit de faire. il suffirait de pas grand-chose. En l'occurrence, vous êtes quelqu'un de bien. On va aller creuser ça, évidemment, un peu plus en détail. Voilà, 20 à 30% l'adoptent, 10% sont vraiment réfractaires. Ça, c'est une étude, une autre étude, mais en fait, on voit que les chiffres sont similaires, 10, 20, 30% les altruistes, et puis 10% les réfractaires. Bon, voilà, on a vu que dans l'expérience, il y avait jusqu'à 20%. Et 60% sont plutôt ouverts à l'adopter, mais ont besoin d'un coup de pouce pour passer de l'intention à l'action. C'était dans l'une de vos définitions. Autre chiffre, 94%, je regarde l'heure, 94% des Français déclarent souhaiter agir pour lutter contre une cause, et nos altruistes passent à l'acte. Voilà. Bon, ça c'est juste pour dire que les chiffres que je vous ai donnés, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est ce que la littérature académique et scientifique nous apprend depuis de nombreuses années, et notamment la psychologie sociale qui étudie le comportement des individus, notamment en groupe. Alors, ce comportement, ce fameux comportement, comment il s'opère, en fait, c'est un peu une interaction un peu complexe, et j'essaierai de la simplifier au fur et à mesure, mais entre ce qu'est un individu, ce qu'il est, sa formation, son éducation, ce qu'on appelle ses croyances, et j'y reviendrai, ses attentes aussi. Hein, voilà, je suis venu profiter de la montagne, qu'on ne vienne pas m'emmerder avec « il faut respecter les éleveurs ou récupérer ses déchets ». Non, moi je suis venu profiter de la montagne et faire de la randonnée, donc qu'importe si je laisse la barrière ouverte. Mais aussi, donc, entre ce que je suis, mes croyances, mais aussi celles de mon environnement, qu'il soit physique ou social. Quelqu'un a évoqué la notion d'influence sociale ou de pression sociale, bien, on va voir que ça agit évidemment. Il faut quand même savoir que la plupart de nos comportements quotidiens sont des habitudes. C'est-à-dire que si à la maison, je n'ai pas l'habitude de trier, si à la maison, je n'ai pas l'habitude d'être respectueux des autres, alors à la maison, dans l'entreprise, dans ma famille, avec mes amis, etc., je ne suis pas respectueux des autres, je ne vais pas l'être évidemment en montagne. Hein ? Ou sur une pratique. Donc, on est quand même fait d'habitude. Et on va voir que changer les comportements, c'est souvent, évidemment, lutter contre ces habitudes. Voilà. Ces habitudes étant du confort pour moi. Hein ? C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, se pose la question, du coup, quelles sont les techniques pour faire changer les comportements d'un individu ? Je ne vais pas vous faire participer, mais si, vous filmez quoi ? Moi ou l'écran ?
L'audio.
D'accord, ok. Donc si, je peux faire ça ? Oui, voilà, donc je fais ça. Alors, quelles sont les techniques pour faire changer les comportements d'un individu, selon vous ?
Il faut me laisser plus de temps.
Oui, oui. Alors, quelles seraient les techniques pour faire changer les comportements d'un individu ?
Une obligation.
Une obligation, voilà. Il y a des environnements où, voilà, où du coup, il faut interdire avec sanctions, etc.
Du coaching, du management ?
Oui, tout à fait. L'accompagnement de l'individu, voilà, qu'on pourrait appeler coaching, management.
Valoriser des bons exemples.
Tout à fait, la valorisation des bonnes pratiques pour montrer qu'il y a des bonnes pratiques et que l'on va valoriser ces bonnes pratiques. Quelles seraient les techniques pour faire changer les comportements de l'individu ? Tout à fait, exactement. Donc l'un des enjeux en matière de transition climatique, un enjeu qui est porté par les Nations Unies, c'est évidemment l'éducation, la transition écologique, à la question climatique, etc. Et le GIEC, vous avez vu, a sorti une BD il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine dernière, je crois, pour faire comprendre les enjeux climatiques. Et donc, la pédagogie, l'éducation, la formation, c'est important. Qui n'a pas fait dans cette salle la fraise du climat ? Ouais, voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui n'ont pas fait la fraise du climat, quoi. Dans les entreprises, même à Toulouse, chez Airbus, les ingénieurs font faire des fraises du climat. Voilà. Bon. Donc l'éducation, la pédagogie. Voilà les autres techniques. Je fais avancer le débat, bien sûr. Il y a la peur. Il y a l'obéissance. Voilà, il y a des gens qui, effectivement, si la loi dit il faut fermer la clôture, si je ne ferme pas la clôture ou je ne marche pas dans l'assiette, j'ai un PV. Il y a des gens qui vont effectivement respecter parce que derrière, il y a l'obéissance. La soumission, l'influence, l'information. Vous m'avez parlé de pédagogie, mais il y a aussi l'information. Alors, la persuasion, les émotions, bien sûr, j'y reviendrai. La persuasion, ce sont les techniques de communication. En psychologie sociale, quand on parle de persuasion, en fait, on entend communication. Donc tout ça, ce sont des techniques qui permettent de faire changer les comportements des individus. Alors, je vais en passer certaines très très vite que vous connaissez déjà. La peur, voilà. Donc, inciter sur la gravité de la situation, évidemment, c'est efficace. Alors, ça ne marche pas tout le temps, parce qu'à force de crier au loup, mais en tout cas, là, à un moment de la Covid, toutes les techniques qui ont été utilisées pour faire accepter les comportements pendant la Covid sont liées aux sciences comportementales, sont liées à la psychologie sociale et accessoirement à ce qu'on appelle les nudges, qui relèvent de ce qu'on appelle l'économie comportementale. Le gouvernement, pour gérer la crise sanitaire, a utilisé toutes les techniques comportementales, dont une petite partie que je vais vous enseigner, montrer là, dans le fil du temps qui nous reste. Et notamment l'une, montrée par le nombre de morts tous les jours, par des figures représentatives de l'autorité, les médecins, tous les jours à la télé, etc., etc., voilà, en faisant peur. Et en tout cas, pour le premier confinement, pour les autres, ça a fonctionné. Donc la peur est un moyen de faire changer le comportement de l'individu. La culpabilité aussi. Un petit peu de culpabilité fait changer le comportement de l'individu. C'est un sentiment qui est complexe. Enfin, un sentiment, c'est une technique qui est complexe à utiliser, la culpabilité. Mais un peu de culpabilité, on l'a vu là, pour 60% des gens, l'estime de soi, ça fait changer les comportements de l'individu. Un petit peu de culpabilité. Le problème, c'est que si on tombe trop dans la culpabilité, évidemment, on a un peu l'effet inverse, donc c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Donc je passe. Et puis, il y a ce qu'on appelle les conformismes. Alors là, je vais rester un poil plus de temps. Ça, c'est une expérience. Vous voyez, ça remonte à 1951. Alors les Américains sont assez forts en psychologie sociale parce qu'ils ont construit les bases, tout simplement parce qu'ils ont les moyens de faire des études sur du long temps, du temps long, avec beaucoup de gens. Donc ça, c'est une expérience classique de conformisme. Je vous montrerai rapidement. Donc là, on invite des gens à participer à une expérience sur la vision. Et cette expérience sur la vision va consister à jauger, à mesurer de visu si cette barre, c'est la barre A, B ou C. Alors, c'est du coup la barre C. Sans nul doute, c'est la barre C. Okay. Mais, petite subtilité, donc on est bien d'accord, donc bravo, hein, c'est quoi votre prénom ? Fabien. Donc Fabien, il n'a pas de problème de vue. Ça, c'est quand même rassurant. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui filme, au moins, le point sera fait. Bon, il n'a pas besoin de faire le point avec sa caméra. Donc il n'y a pas de problème. Sauf que, dans cette expérience, tout le monde est comédien, sauf le petit monsieur qui a une flèche. Lui, en fait, c'est l'objet de l'étude. Donc dans cette salle, il y a quelqu'un qui est l'objet de l'étude. Les autres sont des comédiens. Cher payé, d'ailleurs. Mais on taira les chiffres. Le département n'a plus d'argent. Alors, donc, ça donne quoi ? Et c'est le conformisme. Quand un individu est seul, il ne se trompe pas. Donc Fabien ne s'est pas trompé. Il a bien vu que c'est. Il n'y a pas photo, quoi, hein, comme dit l'autre. Par contre, quand il y a une première personne qui dit A alors que c'est, donc là, les 6-7 personnes qui sont autour de la table, il y a quand même 3% de gens. Et puis, s'il y a 5 personnes qui disent A, qui sont des comédiens, alors que la réponse est C, il y a quand même 33% des gens qui vont suivre quelqu'un parce qu'il a dit que c'est C, que c'est, hein, c'est pas C, il a dit que c'est A alors que c'est C. Ça s'appelle le conformisme. Ramener à l'histoire que vous connaissez, on est tous des... Enfin, pas tous, mais on est tous des moutons. Bravo. En tout cas, il y a 33% des gens qui sont des moutons. Ça, c'est le conformisme. C'est-à-dire qu'on a envie... Et pourquoi... c'est quels enseignements de ça hein, c'est que d'un côté, on appelle ça l'influence informationnelle, c'est que dans l'incertitude, on essaye quand même de choisir, de suivre celui qui va nous rassurer. Et du coup, on a plutôt tendance à suivre l'avis des autres, quoi, si on ne sait pas. S'il y a un médecin qui nous dit « Oula, il y a gravité, il peut y avoir danger, etc. » Moi, je ne suis pas expert. Si j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance qui me dit que c'est A alors que c'est C, eh bien, je vais dire A. Donc, on a quand même plutôt tendance à suivre le comportement des autres quand on est dans une situation où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et puis, deuxième enseignement, hein, on l'a vu, ce qu'on appelle l'influence normative, c'est la pression du groupe. Donc, effectivement, si dans le groupe, il y a quelqu'un qui va, ou plusieurs personnes qui vont adopter des bonnes pratiques, l'ensemble du groupe va plutôt tendance à adopter des bonnes pratiques. Voilà. Donc, ça s'appelle le conformisme. Évidemment, il y a la persuasion. Alors, la persuasion, voilà le schéma classique. Je n'ai pas posé la question de savoir s'il y avait des communicantes ou des communicants dans la salle, des gens qui ont l'habitude de faire la communication pour ces activités. Non. Tout le monde un petit peu, ouais. Ou pas. Donc, les croyances que l'on a, c'est là où, effectivement, je vais devoir casser un peu vos croyances, c'est que, en fait... Ce schéma-là, je communique. Communiquer, en fait, ça revient à créer des attitudes, ce qu'on appelle des opinions, des croyances. Une fois que j'ai pensé que par la communication, c'est-à-dire les messages, hein, voilà. Alors ça, c'est pas des messages, voilà, les messages ici, les messages la montagne respect avec tous les visuels que vous avez affichés là-bas, enfin là-bas dans l'autre salle, et puis que je vous ai montré là, ça, c'est de la communication. Et donc... eh bien, on pense que la communication, ça va créer des attitudes. Les attitudes sont faites d'opinions et de croyances. Et une fois que j'ai des attitudes, c'est-à-dire, mon opinion, c'est qu'il faut respecter la montagne, il faut respecter les autres en montagne, etc., eh bien, du coup, je vais adopter le comportement. Ça, c'est une croyance des communicants, parce qu'on nous a appris ça à l'école et puis dans nos pratiques. Voilà, hein. On nous a appris qu'avec la communication, on pouvait changer les comportements parce qu'on créait... des opinions, des attitudes et des croyances. Alors, quand on veut vendre un produit et que vous avez des moyens, c'est-à-dire que vous avez des grands moyens de faire des campagnes de communication partout, sur les réseaux sociaux, la télé, un affichage, etc., oui, on peut penser que pour vendre un produit, on va arriver par la communication à amener au comportement souhaité, à savoir acheter mon produit. Parce qu'on a grands moyens publicitaires, grande capacité à diffuser et à répéter le message, pas de problème, pas de problème, sauf que vous n'avez rien à vendre. Donc, adopter les techniques de communication classiques alors que vous n'avez rien à vendre, c'est-à-dire qu'à la fin, je n'ai rien, si ce n'est le plaisir d'avoir partagé un environnement protégé, non souillé, etc., etc., mais à la fin, je n'ai rien. Donc ça veut dire que la communication seule ne fait plaisir qu'aux élus. J'ai travaillé beaucoup pendant longtemps avec les élus. Ce qui les importait, les élus, pas ici, hein, pas les élus d'ici, on est d'accord. Hein. Je suis de chez moi. J'ai plein d'exemples. Hein. Ce qui est important, c'est afficher les messages. Sauf que afficher les messages, quand on n'a rien à la fin, ça ne fait pas changer les comportements des individus. Ça diffuse une information, tout à fait. Donc il faut savoir que, voilà, comment pratiquer la rando, comment respecter... Ok, d'accord, il faut savoir que l'information existe, mais ça ne fait pas changer les comportements. Sauf que c'est dans nos croyances. De communicants, et évidemment, tous ceux qu'on a autour, on pense que la communication peut changer les comportements. Eh bien non. Donc le modèle publicitaire, les communicants qui sont souvent des... quand même des gens qui ont compris le fonctionnement de l'individu, et puis sont souvent flemmards. Les communicants ou les communicantes sont souvent flemmards, c'est-à-dire qu'il faut trouver le truc le plus rapide. Donc il y a un modèle publicitaire qu'il faut oublier, qui s'appelle AIDA, qui est le modèle publicitaire le plus ancien, bon, voilà, qu'on apprend à l'école, pour moi ça remonte évidemment à très très loin, où on dit qu'il faut attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. Et donc la dérive de ça, c'est que ça donne ça à quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, les publicitaires ont compris que pour faire acheter, il valait mieux mettre un homme ou une femme déshabillée, en l'occurrence plutôt un homme. Généralement, je montre plutôt des hommes maintenant parce que on trouve. Ouais, voilà, c'est ça, merci. Mais donc, du coup, les publicitaires ont compris que si je mettais un homme nu, je vais plutôt attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et du coup pousser à l'action, à savoir acheter chez Darty. Ça, c'est un modèle publicitaire classique qui est ancré évidemment dans notre cerveau, quoi. Hein. Parce que c'est basé sur des stéréotypes. Bon. Et ça, évidemment, ça fonctionne pour vendre Darty ou des jeans, mais moins bien pour ne marcher pas dans mon assiette. Quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ça c'est un autre chercheur qui montrait cette étude-là, qu'en fait l'information ne fait pas agir. L'information et la communication ne fait pas agir sur les sujets qui sont les autres, à part, on est bien d'accord, les 30% qui sont des... Non. Les altruistes, voilà. Ceux-là, pas de problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, et ce qu'il faut retenir là, pour changer un comportement, il ne suffit pas de propager des idées. En fait, il faut changer les croyances et les valeurs. Il faut changer les croyances et les valeurs. Et évidemment, pour changer les croyances et les valeurs, il faut s'y prendre un peu différemment. Alors, je vous montre ça parce que tout le monde a entendu parler des nudges. Qui n'a pas entendu parler des nudges dans cette salle ? Tout le monde, au moins une fois dans sa vie, là maintenant, a entendu parler des nudges. Les nudges, bah, c'est ce que vous avez fait, là, voilà, ne pas déranger, baignade fortement déconseillée, clôture fermée, ne marchez pas dans mon assiette. Ça, ce sont des nudges. Il y a d'autres nudges que vous avez ici, là. Voilà. Esprit Park, c'est des choses qui ont été faites sur des parcs naturels. Ici, c'est je ne sais plus quelle expérimentation. Donc là, on a des nudges. Voilà. Avec le pourcentage là, qui est lié à la norme sociale, un petit geste et de grandes conséquences. Ça, ce sont des nudges. Mais les nudges ne créent ni l'intention, ni les croyances. Les nudges ne créent ni l'intention, ni les croyances. Si je n'ai pas l'intention de respecter la montagne, je ne le respecterai pas. Ce n'est pas, et c'est pas parce que je veux mettre un petit truc comme ça que je vais le faire. C'est pas suffisant. Ça ne crée pas l'intérêt, ça ne crée pas l'intention, ça ne crée pas la croyance. La croyance, c'est quoi ? C'est ce que j'ai dans mon cerveau, mes opinions, mes attitudes, hein, qui fait qu'à un moment donné, je vais reproduire le geste, par exemple. Je vais faire partager mes bonnes pratiques, je vais inciter ma famille, mes amis à pratiquer. Les nudges ne font pas changer l'intention et les croyances. C'est pour ça que la communication engageante va se nourrir des deux. Et évidemment, on va voir comment. Donc, une autre expérience sur la persuasion, hein, pour montrer qu'effectivement, la communication et l'information n'est pas suffisante pour faire changer les comportements de l'individu. Ça, c'est évidemment des Américains. X séances, 17, oui. Donc, 65 séances de sensibilisation pendant un certain temps. Et à la fin, on met fait du tabac. Ils prennent deux groupes. Il y a un groupe qui a suivi les séances d'information et un groupe qui n'a pas suivi les séances d'information. À la fin, que j'ai reçu l'information ou la communication ou pas, la probabilité d'être fumeur est la même. Donc ça, c'est l'une des démonstrations faites par ces chercheurs-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai reçu une information que ça va changer mon comportement au final. Alors évidemment, c'est un peu déroutant parce qu'on a ça dans notre cerveau. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que du coup, oui, on continue à diffuser l'information et donc ça va faire changer les comportements. Oui, mais pour nos altruistes qui sont déjà acquis, voilà. Bon, à la marge, on va récupérer des 20-30%, on va arriver jusqu'à 35%, mais souvent, guère plus. Et donc, ça, c'est une opération qui n'est pas chez vous, qui est en Pyrénées-Atlantiques, dans le 64. Réussir ma rando, voilà une communication qu'il réalisait un peu dans l'optique de ce que j'ai vu, respect montagne. Voilà, c'est exactement le même état d'esprit. Leur opération, c'est ma rando responsable, réussir ma rando en 64. Eh bien, ça, c'est de l'information, c'est utile, ça ne fait pas changer les comportements. C'est nécessaire, c'est utile, ça ne fait pas changer les comportements. Okay. Ou en tout cas tellement à la marge que, évidemment, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est le schéma le plus complexe de la matinée. Normalement, à 10h30, le cerveau est réveillé, la nuit est terminée, la digestion du café et de la viennoiserie s'est faite. Donc c'est le schéma le plus complexe. Quand vous aurez vu ce schéma, vous saurez comment fonctionne un individu et pourquoi il fait ou il ne fait pas. Donc je vais vous l'expliquer. Alors, ça s'appelle la théorie de l'action raisonnée. Si vous tapez sur le net TAR ou théorie de l'action raisonnée, vous allez tomber sur ce système-là. C'est le système le plus simple des modèles de compréhension du comportement de l'individu. Les deux chercheurs, là, voilà, ils ont élaboré cette théorie en 1975, donc c'est pas tout récent. Hein. C'est une théorie... Enfin, c'est plus qu'une théorie, c'est avéré, voilà, retesté, etc. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez le comportement à la fin. Dans le modèle, et tous les modèles d'ailleurs de compréhension du comportement, pour que l'individu fasse un comportement, il faut qu'il y ait une intention. C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre plutôt mon vélo que ma voiture pour aller au travail ? Il faut que j'ai l'intention de prendre mon vélo. Si je n'ai pas l'intention de prendre le vélo, je ne prendrai jamais mon vélo. Si je n'ai pas l'intention de respecter en pastoralisme l'éleveur, ses horaires, etc., et que évidemment il n'est pas porte ouverte et je ne peux pas venir le déranger quand je veux, je ne le ferai pas, ou je le ferai, alors que... mais si je n'ai pas l'intention de le faire, je ne vais pas respecter les consignes qu'on me donne. Tout comportement a une intention. Arrêter de fumer, si je n'ai pas l'intention d'arrêter de fumer, je n'arrêterai pas. Okay ? Si je n'ai pas, si je décide pas d'arrêter de manger de la viande rouge, je ne m'arrêterai pas de manger de viande rouge. Il faut qu'il y ait une intention. Tous les modèles comportementaux montrent que l'intention est nécessaire et le préalable au comportement. Mais pour arriver à construire l'intention, il faut qu'il y ait tout ça, en fait, qui entre en jeu. Quelle est mon attitude vis-à-vis du comportement ? Est-ce que vis-à-vis de la consommation de viande rouge, quelle est mon attitude ? Ah, ben, la viande rouge, c'est bon pour moi. Chaque fois, quand je suis malade, du coup, je prends de la viande rouge, ça m'amène du fer. Voilà, donc, bon, OK. Donc, je vais pas arrêter de manger la viande rouge. Si j'ai toujours consommé de la viande rouge, quoi. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la norme subjective, qui est en fait la norme sociale ou la pression sociale. Mais on dit plutôt norme sociale. Ben, dans ma famille, on a toujours mangé la viande rouge. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, ou à tous les repas. Donc pourquoi j'arrêterais de manger de la viande rouge, même pour le climat, ou pour ma santé, puisqu'autour de moi, tout le monde consomme de la viande rouge. Et troisième sujet, donc ça, du coup, quelle est l'attitude vis-à-vis du comportement ? Mon environnement, il pense quoi ? Tous mes collègues dans l'entreprise viennent à vélo, ou ne viennent pas à vélo. Pourquoi moi, je viendrais à vélo ? Et troisième sujet, c'est le sujet le plus important, là. C'est ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu. On dit aussi l'autoréalisation, l'autocontrôle. C'est-à-dire, c'est ma capacité à penser que je peux adopter le comportement souhaité. Est-ce que je suis en capacité d'arrêter de manger de la viande rouge ? Est-ce que je suis en capacité de faire du vélo ? Ça s'appelle l'autocontrôle. On dit aussi contrôle comportemental perçu. Est-ce que je pense que je suis en situation d'être acteur ou actif vis-à-vis du comportement que le monde demande de faire. Et ça, c'est le plus important. Parce que si on accroît le sentiment de faculté d'action et de perception du contrôle de l'individu, c'est-à-dire si on le rend acteur, ou si on lui fait toucher du doigt qu'il peut être acteur, qu'il a donc la capacité de faire, ça augmente son envie de faire, à condition qu'on lui dise qu'il est libre de le faire. Je reviendrai un petit peu. Donc une fois que j'ai compris que pour construire une intention, il faut à la fois que j'ai une attitude envers le comportement, tiens, effectivement, manger de la viande rouge, c'est pas bon pour ma santé. Je vois bien, chaque fois que je mange la viande rouge le soir, j'ai du mal à digérer, j'ai chaud la nuit, etc. Donc quand même, il y a une cause à effet. Si en plus, autour de moi, on me dit que du coup, manger la viande rouge, c'est pas bon, et que quelque part, on me permette de comprendre qu'à un moment donné, je peux arrêter de manger la viande rouge, que j'en ai la capacité. Qu'en fait, on me montre que je suis en capacité de, que je suis acteur de, et que donc j'ai le pouvoir d'arrêter de fumer. Oui, bah oui, j'ai le pouvoir d'arrêter de manger la viande, de fumer, etc., de respecter la montagne, d'être gentil avec les gens, etc. Mais ces trois socles de l'intention qui va amener le comportement, les attitudes sont nourries évidemment par les croyances. Donc, quelle est la croyance sur ma pratique du vélo? Quelle est ma croyance sur les questions environnementales, etc., etc. Sur les normes subjectives, quelles sont les croyances de mon groupe d'appartenance? Mon groupe d'appartenance qui vient se baigner le dimanche sur le lac ou ailleurs, c'est quoi les croyances? Si les croyances sont, bah tiens, profitant d'une journée au frais parce qu'à Lyon il fait très très chaud, mon souci n'est pas évidemment la gestion des déchets, etc., etc. Et évidemment, le contrôle comportemental perçu, c'est quelles sont les croyances que j'ai sur ma capacité à agir, à faire ou ne pas faire. Donc tout ça, ça nourrit en fait mon intention pour passer au comportement. Le seul moyen, mais ça ne fonctionne pas dans la durée vraiment, le seul moyen de squeezer l'intention pour amener au comportement, c'est quand on agit sur la capacité, on montre à l'individu qu'il peut faire quelque chose même s'il n'avait pas l'intention de le faire. Et c'est effectivement là où ce qu'on appelle les nudges pourraient et peuvent agir pour squeezer l'intention. J'avais pas l'intention de fermer la barrière et en passant, je vois un petit truc rigolo avec une petite bête rigolote là. Du coup, bah, je ferme la barrière. Ça veut dire qu'il y a certaines techniques dans les nudges qui permettent de squeezer l'intention. J'avais pas l'intention de respecter l'environnement dans lequel je suis et j'ai un petit stimuli qui fait que du coup je vais squeezer l'intention pour aller au comportement. Et les nudges, en fait, ceux qui connaissent les nudges, permettent de squeezer l'intention. Sauf que mon intérêt pour que le comportement perdure, le comportement se développe, que du coup je reproduis ce comportement-là. Si je n'ai pas construit mon attitude, si je n'ai pas agi sur les normes sociales, je ne vais pas contribuer et agir sur l'intention. Si je n'ai pas l'intention de respecter la montagne, par quelques trucs et astuces, ponctuellement, je vais pouvoir agir, mais ça ne construit pas, dans la durée, en tout cas, suffisamment mon attitude, mes croyances sur le sujet, qui fait que dans la durée, je vais reproduire ou adopter un nouveau comportement. Ça va, parce que c'était la partie la plus complexe. Il me reste 20 minutes, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que généralement, ça pose un certain nombre de questions, donc je préfère m'arrêter 2 minutes. Est-ce que c'était clair? Pour construire, pour faire adopter un nouveau comportement, il faut qu'il y ait une intention. L'intention, elle est nourrie de quelles sont mes attitudes vis-à-vis, mes opinions, ma croyance sur le comportement qu'on me demande d'agir, de faire, pardon. Mon groupe d'appartenance qui fait pression sur moi, qui a une influence sur moi, qu'est-ce qu'il partage? Et in fine, est-ce qu'on me crée les conditions de perception de ma capacité à agir Parce que l'individu a besoin d'être acteur et pas passif. Et la notion de liberté, on le verra par la suite, est importante. Ça va ?
Ça, c'est applicable sur les 70-80%.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours nos 10-20% de réfractaires qui, de toute façon, eux, quoi que vous fassiez, si ce n'est pas dans leur radar, ou de là, on n'y arrivera pas. Quoi. Bon.
Donc avec les nuages, vous disiez que ça correspondait à... Ça permettait aux altruistes de prenaient ça comme une information et ça leur permettait d'agir.
Oui. Ah oui, oui, un peu plus. Ouais, on peut, des fois, on peut gagner 20, 10, 20, 30%. Mais de manière ponctuelle, et qu'il va falloir reproduire, effectivement. C'est pas parce que j'aurais respecté la clôture à un moment donné à un endroit, parce que j'avais pas l'intention de le faire, que si je me retrouve un kilomètre plus loin, dans un autre contexte qui est, je sais pas, tiens, l'éleveur, il a laissé sa porte ouverte de sa bergerie. Il y a des bergeries ici. Oui. Non, c'est pas trop. Non, les vaches, plutôt les vaches ici. Voilà, donc il a laissé son étable ouverte, et donc je peux rentrer chez lui parce qu'il a laissé sa porte, voilà, et je peux regarder les vaches, je peux l'embêter alors qu'il est en train de travailler, quoi. Donc ça ne conditionne pas, évidemment, l'autre comportement, sauf évidemment à remettre potentiellement une information de ce style-là, hein, alors très visuelle, etc., pour dire, bah, il travaille, merci de ne pas la déranger, quoi. Okay.
Est-ce que c'est le cas aussi chez les enfants ? Enfin, on met tout le monde dans le même paquet ?
Alors, les études de psychologie sociale, en tout cas celles que n'adressent pas les enfants. Enfin, c'est pas là où il y a le plus d'études, évidemment, c'est plutôt pour les adultes. Les seules expériences que j'ai en tête... c'est que la notion de conformisme et de suivi de l'autre est assez grand. Donc, en tout cas, pour les nudges, ça marcherait, si c'était ça la question. Pour les nudges, ça marcherait comme les adultes. Peut-être encore mieux, d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas d'études sur la population enfant, en l'occurrence. Ouais. Ah oui, dans tous les cas, on va travailler sur le changement d'habitude des individus. Je respecte ou pas, je suis solidaire ou pas, bien sûr, oui. Donc, ça veut dire... Alors, il faut qu'il y ait une intention de l'intention au comportement. Mais la psychologie sociale nous apprend, c'est les chiffres qui sont là, quand j'ai l'intention d'agir, c'est-à-dire j'ai l'intention d'arrêter de fumer, j'ai l'intention de prendre le vélo, j'ai l'intention d'avoir une pratique de rando responsable, ceux qui disent qu'ils ont l'intention, il n'y en a que 1 sur 2 qui passe à l'acte. Donc si vous faites un questionnement, par exemple, de randonneurs du dimanche dans vos contrées, Si vous leur posez la question, est-ce que vous avez l'intention d'avoir des pratiques de randonnée responsables ? Si vous avez 80% des individus, 80 personnes sur 100 qui disent oui, j'ai l'intention de, la psychologie sociale nous apprend qu'en fait, il y en aura 1 sur 2 qui va le faire, c'est-à-dire 40. Donc il y a un autre élément, évidemment, à prendre en compte, il y a un décalage entre l'intention déclarée de l'individu et évidemment son comportement derrière. Il faut créer l'intention, mais entre l'intention et le comportement, il y a quand même 1 sur 2 qui ne fait pas. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Ce n'est pas parce qu'on aura travaillé sur l'intention et que l'individu, si on lui pose la question, est-ce qu'il a l'intention de faire, déjà, il faut lui poser la question. Est-ce que vous avez l'intention d'éteindre la lumière après la réunion faite au département, dans la salle de réunion. Donc, si j'ai posé la question de l'intention, en fait, dans les faits, il y a 1 personne sur 2 qui va le faire. C'est ce que nous apprend la psychologie sociale. Et donc, à un moment donné, pour arriver à la communication engageante, il faut se poser la question de, mais alors, du coup, comment, si on sait que 1 sur 2, l'intention, et qu'il faut travailler sur l'intention, les croyances, l'autocontrôle, la capacité de l'individu à dire qu'il a en capacité, qu'il est en capacité d'agir, il faut, du coup, aller toucher du doigt ce que sont, ce qu'est l'engagement de l'individu à un moment donné, pour voir est-ce que, du coup, on peut squeezer l'intention et amener directement au comportement, et en même temps, est-ce qu'on peut nourrir ses croyances, etc. Donc, pour faire ça, pour arriver à la communication engageante, dans communication engageante, ben, vous avez communication, et puis vous avez évidemment engageante, à savoir engagement. Donc, le deuxième, le pilier, le premier pilier qu'il faut comprendre dans la communication engageante, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'engagement, comment on engage les individus. Donc là, l'expérience, et on voit que les Américains nous apprennent, nous ont appris pas mal de trucs, voilà. C'est la première expérience, c'est Kurt Lewin. On prend souvent cette expérience parce que vous allez voir, elle est explicite. C'est pendant la guerre, le gouvernement américain a des difficultés à nourrir ses habitants. Parce que bah, du coup tout l'effort de guerre elle est sur l'industrie de guerre, et donc bah, y a moins d'agriculteurs, moins d'éleveurs, donc y a moins de viande rouge à manger. Culturellement aux États-Unis voilà, et même en France un petit peu moins, on le voit maintenant, mais culturellement la viande rouge dit cowboy, grands espaces, le pouvoir, puissance, etc. Donc l'Américain moyen, il mange la viande rouge, bœuf, hamburger, etc. Parce que du coup derrière ses croyances, c'est si je mange de la viande rouge, je suis comme découvreur du monde, là, de la nouvelle frontière, je suis un cow-boy, et donc du coup, je vais courir après le bison que je vais tuer et je vais manger. Donc je suis courageux, etc. etc. Et en plus libre. Donc, sauf que il y a moins de viande rouge, et donc évidemment beaucoup de difficultés à nourrir la population. Et donc le gouvernement américain, président des États-Unis à cette époque-là, Roosevelt, j'ai un doute là sur le moment. Roosevelt dit il faut inviter les ménagères américaines à consommer, évidemment, à cuisiner des abats. Alors que culturellement, dans nos croyances, nos attitudes et nos normes sociales, c'est pas les abats que l'Américain a l'habitude de consommer, c'est la viande rouge. Et beaucoup de difficultés à faire adopter une nouvelle pratique hein, pour abandonner la viande rouge pour des abats. Donc, il fait deux choses. Il fait une chose, mais il prend un groupe qu'on appelle le groupe de contrôle, peu importe, sur lequel il fait de la persuasion classique, c'est-à-dire il fait de la communication classique, de l'information classique. Ça revient à faire quoi ? En l'occurrence, hein, aux États-Unis à cette époque-là, des conférences classiques sur la valeur nutritive des abats. Et donc, un certain nombre de groupes, on leur fait des conférences comme vous faites là. Voilà, donc, on leur enseigne que cuisiner des abats, c'est bien, etc. C'est donc de l'information descendante, on est bien d'accord. L'individu n'est pas acteur, il reçoit l'information. Et dans l'autre groupe, c'est un peu différent. On associe la persuasion classique, la communication classique de l'information et la prise de décision publique. Et surtout, on fait participer les individus, en l'occurrence beaucoup de femmes, on crée des petits groupes et on les fait réfléchir, évidemment, à comment vous pourriez cuisiner les abats à partir des recettes de cuisine que vous avez sur la viande rouge ou des aliments plus habituels. Et donc, elles travaillent en groupe. D'abord, elles travaillent sur les objections. Bah oui, la viande rouge, mon mari, mon fils, ma fille, etc., ils n'ont pas aimé. Puis après, on leur demande, mais qu'est-ce que vous pourriez quand même faire ? Est-ce que vous pourriez adopter un type de recette avec des abats ? Ah oui, finalement, etc., etc. Une fois que ces petites séances de participation sont faites, il y a eu un exposé, hein, quand même, sur pourquoi les abats avaient un bienfait nutritionnel, par exemple. Ensuite, elles viennent reporter ce qu'elles ont trouvé comme, comme pratique, si déjà pour certaines d'entre elles, l'exemplarité, elles déjà cuisinaient des abats, ou comment elles ont vu qu'elles pourraient cuisiner des abats avec des recettes liées à la viande rouge, par exemple. Et à la fin, on leur demandait, maintenant, voilà, vous avez découvert les bienfaits de la viande des abats, est-ce que quelles sont celles qui, parmi vous, demain, dans votre cuisine, vous allez consommer des abats, en tout cas cuisiner des abats pour faire consommer des abats à votre famille. Et là, on demandait aux gens de lever la main. Donc là, les gens levaient la main. Qui va consommer, qui va acheter des abats et qui va les consommer et lever la main. Voilà les résultats. Donc dans l'information classique, il n'y a que 3% des gens. Alors on aurait pu avoir un peu plus, mais comme là, le sujet est très ancré culturellement, en fait, on n'a pas nos altruistes là. On n'a que 3% des gens qui finalement, le lendemain ou dans la semaine, cuisinaient des abats. Par contre, là où on a mis les gens acteurs, et à la fin on leur a demandé de se positionner, hein, parce que, eh bien là, on a 30% de gens, ce qui est énorme, 10 fois plus de gens qui se sont mis à consommer des abats. Donc ça veut dire que si on veut engager l'individu, pour engager l'individu, les enseignements, c'est OK, il faut de l'information pour qu'ils comprennent l'enjeu, mais il faut aussi les mettre en mouvement, les rendre acteurs, leur faire partager des expériences et à la fin, leur demander quelle est leur intention. Parce que ça veut dire que s'il y avait sur chaque réunion, on va dire, 300 personnes présentes, ça veut dire que derrière, il y avait 32%, donc 100 personnes qui, dans les faits, ont adopté, parce que du coup c'était mesuré, contrôlé évidemment, parce qu'ils avaient les moyens. Donc sur les 300 personnes présentes, il y avait 100 personnes qui ont vraiment consommé les abats. Mais à la fin de la réunion, quand on leur a demandé qui avait l'intention de consommer les abats, il y avait combien de personnes qui avaient levé la main? Si on a, à la fin, on a 100 personnes qui ont vraiment consommé, 200 personnes. C'est-à-dire qu'à la fin de la réunion, il y avait 200 personnes qui avaient levé la main. L'intention, est-ce que vous avez l'intention? Ben, 200 personnes. Et dans les faits, la psychologie sociale nous apprend que sur les 200 personnes, on en aura plus ou moins 50%, 53%, dont nos 100 personnes là, okay, qui représentaient 32%. Donc ça, ce sont des éléments à garder en tête, qui fait qu'on a créé les conditions de l'engagement par la participation, parce qu'on a rendu la personne actrice, et acteur, que derrière on lui a posé l'intention, on a posé la question de l'intention, et qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'effet de gel, qui fait que quand j'ai levé la main, j'ai plus de difficultés évidemment derrière à ne pas faire, mais comme on a l'intention d'eux, à la fin on a 30%. Ça veut dire que à la fin de la réunion, il y avait 60% de gens, un peu plus de 60% des gens qui ont dit ah ben oui, je vais consommer des abats, j'ai bien compris, et en plus j'ai participé, donc j'ai bien vu que c'était important. Dans les faits, on n'a que 30% qui représentent nos 100 personnes dans le cas que j'ai cité. Ce qu'il faut donc comprendre, il me reste quelques minutes, que seuls nos engagements, seuls nos actes nous engagent et non nos idées. Seuls nos actes nous engagent, c'est-à-dire que si j'ai commencé un petit peu à me mettre en action, si je suis déjà un peu engagé, la probabilité derrière que je fasse, que j'adopte le comportement, sera évidemment plus grand. Et pour arriver à adopter un comportement un peu engageant, arrêter, consommer des abats plutôt que de la viande rouge, il faut créer ce qu'on appelle, en tout cas ce que Robert Vincent Joule, c'est ce chercheur français en l'occurrence, universitaire de talent, il faut créer des actes préparatoires. C'est-à-dire qu'il faut créer des petits actes qui vont m'amener vers l'acte final, à savoir consommer des abats. Si je dis à la personne, il faut que tu consommes des abats parce que c'est important, blablabla, on en a 3%. Si on dit, est-ce que tu pourrais discuter avec tes camarades sur des recettes ou des objections que tu pourrais avoir, ou des recettes, eh bien là, du coup, petit acte pas très coûteux. Hein. C'est comme si on se réunissait là pour dire, ben voilà, est-ce que vous voulez consommer des abats et cuisiner des abats ? Pas très coûteux, je risque rien. Ok, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un acte préparatoire. Et une fois que j'ai un acte préparatoire fait, bien là, derrière, je peux demander quelque chose de plus ambitieux. Ce qui est à savoir arrêter de consommer de la viande rouge pour privilégier les abats. Donc, cet acte préparatoire, ça change le schéma que vous avez vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on fait agir l'individu, donc on agit sur sa capacité de compréhension qu'il a la capacité de faire, il peut être acteur, il suffit en fait de le titiller, ça amène au comportement, et une fois qu'on a fait le comportement, ça crée des opinions, des croyances, évidemment. Ça veut dire que si j'ai fait adopter à l'individu des nouvelles pratiques régulières pour changer ses habitudes, on peut penser qu'une fois que j'ai changé les habitudes de l'individu, évidemment, il va adopter cette attitude, ce comportement, mais que ça a aussi construit son opinion, ses croyances. Je vais évidemment revenir sur ça pour en terminer. Le livre le plus connu, et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire, de Robert Vincent Joule et son co-auteur qui s'appelle Jean-Léon Beauvois, c'est « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Donc toutes les activités que vous représentez, si vous voulez rentrer dans le détail de ce que j'ai abordé ce matin, et je vais finir sur les définitions de la com' engageante, il faut lire ce livre-là, qui est un best-seller. C'est le livre d'un universitaire en France quasiment le plus lu. En tout cas, pour un Français, il a vendu 500 000 exemplaires, ce qui est énorme. Hein. C'est beaucoup hein, pour un livre universitaire. Bon, c'est très facile à lire, très agréable, mais c'est à ce moment-là qu'il a posé les bases de ce qu'on appelle la communication engageante, dont je vais vous donner la définition incessamment sous peu. Donc, pour arriver à engager l'individu, avant de lui demander « Tiens, est-ce que tu veux arrêter de manger de la viande rouge ?» et choisir des abats, eh ben, il faut le mettre en mouvement. C'est-à-dire, est-ce que tu veux respecter les pratiques de randonnée responsables ? C'est beaucoup, quand même, tout ça. Est-ce que tu veux juste, au moment du départ, garer ta voiture au bon endroit ? Ouais, bon. Est-ce que tu veux signer une charte t'incitant à respecter les bonnes pratiques de montagne ? Oui. Donc ça, c'est un acte préparatoire. Souvent, on a remplir un questionnaire, je vous en montrerai d'autres, réfléchir à des slogans, coller un autocollant. Voilà, le simple fait de dire, ben voilà, est-ce que tu es un randonneur responsable ? Et du coup, au départ d'une randonnée, ça, c'est les Pyrénées-Atlantiques, ils font ça pendant l'été juste. Ils mettent des kiosques avec des agents du département et puis des acteurs, des opérateurs touristiques, au télé, etc. Là où il y a les randonnées où il y a le plus de fréquentation, ils mettent des individus là et ils vont pratiquer ce type d'acte préparatoire. Pour certains, on va leur donner un badge. Ben oui, je suis randonneur responsable. Ah oui, est-ce que tu es d'accord ? Donc oui, je signe la charte. Très bien. Ça, c'est pas très compliqué de signer la charte. C'est un acte peu coûteux. Ça s'appelle un acte préparatoire, donc, maintenant. Où porter un badge et où, etc., etc. Eh bien, et derrière, du coup, ils vont mesurer quelles sont les bonnes pratiques. Du coup, est-ce que le respect de ce qui est demandé, notamment les clôtures, le respect des rythmes de travail de l'agriculteur, l'éleveur, est-ce que ça va être adopté ? Et donc, ils vont mettre ça en place. C'est donc un acte préparatoire. Et l'acte préparatoire, le petit geste, porter un badge, signer une charte, ça vous met en fait dans la prédisposition, puisque ça vous met en tant qu'acteur pour adopter le geste plus responsable, à savoir pratiquer ma randonnée de manière la plus respectueuse de l'environnement, des acteurs, des habitants, etc. Et donc, il y a d'autres exemples d'actes préparatoires, un quiz ou démarrage, voilà, un badge, faire un jeu, comme on a fait ce matin, brainstormer ensemble, participer à une création collective, calculer ses émissions de CO2, une charte, je l'ai dit, par exemple, le défi famille à énergie positive, ce sont des actes préparatoires pour inciter les familles à faire des économies d'énergie. Et dans tous les cas, pour que l'acte préparatoire et la communication engageante, dont je donnerai les définitions juste après, il faut qu'il y ait des facteurs clés de succès qui sont le contexte de liberté. Il faut que l'individu reste libre de faire ou de ne pas faire. Si vous mettez en place ce type de communication et que juste avant, vous avez un panneau qui est « Attention, sanction, si vous ne respectez pas l'environnement, vous allez à l'encontre de l'article de loi ou de la déclaration de la préfecture, blablabla », c'est foutu. Parce qu'il y a le contexte de liberté et l'individu, hein, ça s'appelle la réactance psychologique, ça vous oublierez. Dès que lorsqu'un individu perçoit que l'une de ses libertés est menacée ou abolie, il tend à déployer un effort conséquent pour la reconquérir. Donc il faut laisser l'individu libre d'eux. Alors le caractère intrinsèque, ça veut dire que évidemment les altruistes qui ont des valeurs solidaires, etc., si j'ai ces valeurs-là, je vais avoir plus de chances d'adopter des bons comportements, en tout cas sur les comportements que vous souhaitez leur faire adopter, évidemment. C'est clair. Si je suis éloigné, nos 20-30% de sociopathes, psychopathes, ça sera difficile. Le caractère public. Si dans cette salle, vous levez la main pour dire « j'ai », « je suis prêt à », évidemment, ça a du poids supplémentaire. L'irrévocabilité, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai porté le badge, je ne peux plus l'enlever. Voilà. La répétition, bien sûr, quand même, et le coût. Alors, le coût n'est pas le coût financier. Hein. Plus je vais adopter des comportements successifs plus ou moins coûteux, bah, plus j'aurai des difficultés à faire machine arrière. Et donc, la définition de la com engageante, quasiment en clôture, c'est en fait, et c'est donc un champ de la communication qui a été travaillé et inventé par les chercheurs que je vous ai montrés, dont Robert-Vincent Joule. C'est comment, pour faire une communication engageante, comment j'associe les techniques de persuasion et de communication classique avec cet acte préparatoire qui, en fait, va me mettre en chemin. C'est-à-dire qu'avant de me dire bah, « il faut que tu sois un randonneur responsable », c'est beaucoup, quoi. Est-ce que tu es prêt à signer une petite charte ou à coller un sticker pour dire que tu vas respecter ta randonnée ? Enfin, tu vas respecter la montagne pendant ta randonnée. « Oh, ben oui, ça, quand même, je peux le faire. » Bon, ben, celui qui aura fait ce petit acte, vous l'avez mis en action, donc il est devenu acteur. Il a accepté, il peut refuser, hein, mais vous l'avez mis en action, et donc, derrière, l'adoption du geste que vous voulez lui faire adopter sera plus facile, puisque du coup, on aura mis l'individu en chemin. Et donc la communication engageante associe ces actes préparatoires avec les techniques de communication classiques, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien lui dire qu'est-ce que ça veut dire respecter la montagne, respecter des pratiques en pleine nature qui soient respectueuses. Ben, il faut quand même à un moment donné qu'il reparte avec quelque chose qui va conforter, renforcer, lui créer ses croyances, ses opinions, lui montrer que c'est quand même la norme qui est partagée, alors que évidemment, le seul nudge ne fait pas tout ça. On ne lui dit pas, par le nudge, pourquoi c'est important de refermer la clôture. On ne lui donne pas la croyance, les opinions, la compréhension, le sens, le pourquoi. Or, dans la communication engageante, on va aussi veiller, grâce aux techniques de communication classiques, ce qu'on appelle là la persuasion, on va veiller aussi à lui faire comprendre. Ok, il faut que tu... est-ce que tu es prêt à réfléchir à des recettes sur les abats. Ah ben oui, ça. Mais juste avant, ou juste après, on m'a quand même expliqué quel était le bienfait nutritionnel de consommer des abats versus la viande rouge. Hein, y a quand même ça. Pour que quand je vais cuisiner mes abats, je puisse dire à ma famille, tiens, regarde, j'ai fait des abats. Mais pourquoi tu as fait des abats ? Il faut quand même l'individu puisse dire, si j'ai cuisiné des abats, c'est que du point de vue nutritionnel, c'est... aussi important, c'est aussi bienfaiteur que la viande rouge, parce que tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Si on me demande de respecter une pratique en montagne, il faut bien que j'explique qu'à un moment donné, que je comprenne à un moment donné que c'est aussi le fait que, à force d'avoir des pratiques en montagne non respectueuses, ça augmente la question de la gestion des déchets, la question du coût de la gestion, etc., etc. Donc, dans la communication engageante, on a ces actes préparatoires, mais on a la persuasion, et donc on change le système, ce qui revient à se poser, et c'est ça qui fait la différence à la communication classique, à se poser ces questions-là. Quelles sont les bonnes informations à transmettre ? Ça ne change pas. Donc, tous ceux qui font de la communication, il faut garder ce réflexe-là, hein, bien sûr. Quels sont les meilleurs canaux, bien sûr ? Quel est le public ? Mais surtout, qu'est-ce qu'on doit faire au départ ? Et c'est ça l'engagement, pour que le destinataire ne soit plus un récepteur passif, mais un acteur. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme acte préparatoire au départ ? Pour qu'il ne soit pas que, entre guillemets, le récepteur de base, et qu'il soit déjà en action. Évidemment que sur vos activités, il faut vous questionner quel serait cet acte, petit acte préparatoire, qui est mis en perspective avec le comportement final, hein, bien sûr. Et donc, les questions à se poser, c'est qui dit quoi à qui, comment le dire, bien sûr, que mettre dans le message, ça ne se change pas, en lui faisant faire quoi avant ? Alors, on peut faire des actes préparatoires sur les réseaux sociaux. Voilà. Hein. Je me suis inscrit sur un logement pour venir passer une semaine de vacances ici. L'opérateur touristique peut m'envoyer trois petites questions, ou deux questions, pas plus. Hein. C'est un acte préparatoire, ce n'est pas un questionnaire de 20 questions, c'est par exemple deux questions. En venant sur le site, est-ce que tu adoptera les bonnes pratiques responsables pour faire tes randonnées ou tes activités ? Oui, non. Je coche oui, non. Est-ce que tu te sentiras donc du coup plus respectueux de notre environnement pour pouvoir le faire partager à d'autres ? Oui, non. Ça, c'est un acte préparatoire. Même s'il est en ligne et par mail, ceux qui auront répondu, la probabilité du coup qu'ils agissent de manière plus respectueuse, ça sera 1 sur 2. Okay. Si vous n'avez pas posé l'intention, la question, évidemment, derrière, on va avoir un peu plus de mal. Donc, évidemment, que ces systèmes-là doivent s'imaginer de manière à rendre l'individu actif. Voilà. Alors, il est 11h06, deux options s'offrent en Marjorie. J'ai deux, trois trucs à montrer, des exemples, où vous savez à peu près tout, de toute façon, ce qu'il fallait savoir sur la com' engageante. Et du coup, on s'arrête pour respecter à peu près l'horreur. Ça va ? Alors, et du coup, combien de temps tu me donnes ? Ok. Donc, dans les techniques d'engagement qui ont utilisé cette méthode de communication engageante, il y a des techniques manipulatoires. Ces quelques minutes, c'est aussi pour vous montrer que ces techniques-là, on peut les utiliser en manipulant l'individu. Et donc, cette technique-là qui est très connue, qui est le pied dans la porte. Demandez peu dans un premier temps, l'acte préparatoire, pour obtenir plus dans un second temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont habilement détourné les techniques de communication engageante pour manipuler l'individu. Mais vous allez voir la différence entre ce que je vous ai montré précédemment. Donc, comment faire pour demander à quelqu'un, quand on lui donne un peu de rôle, la première technique classique, hein, est-ce que tu as, j'ai besoin de 20 centimes, est-ce que tu as 20 centimes ? Bon, ça c'est cash. Deuxième technique, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez du feu ? Ça c'est un acte préparatoire. Et là, évidemment, voilà les résultats. Et évidemment, la demande finale, j'ai besoin d'un centime. Quand, vous voyez, il n'y a pas tant d'altruistes que ça, il y a dans « est-ce que tu as besoin d'un centime ?» Bon, là, voilà, il y a 10% là. Bon. Mais est-ce que vous avez, vous avez du feu ? Merci, j'ai besoin d'un centime. Là, quand même, 40%. Il y a plein d'expériences comme ça qui s'appellent le pied dans la porte. Quelle est la différence dans cet exemple de manipulation ? Acte préparatoire, est-ce que vous avez du feu ? La demande finale, est-ce que vous avez 20 centimes ? Le comportement attendu final, c'est « donnez-moi 20 centimes ». Comportement, l'acte préparatoire, c'est « est-ce que vous avez du feu ?». Quelle est la différence dans cette expérience-là, qui est maintes fois reproduite, avec la philosophie, l'éthique de la communication engageante que je vous ai montré précédemment. C'est quoi la grosse différence ? Le feu ? Oui, alors... ok, mais la grosse différence n'est pas là. Oui, bien sûr, mais la grosse différence n'est pas là. Alors, c'est pareil, bien sûr, ils sont obligés de le faire, mais c'est la même technique que la communication engageante, ad préparatoire pour arriver à l'engagement. Mais c'est quoi la différence ? Alors là, effectivement, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est la première différence. Deuxième différence. Alors oui, effectivement, il y a l'intention de manipuler, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a une autre différence. Alors, plus que ça, plus que le produit à la fin, donc effectivement il y a un produit à la fin, mais plus que ça, il y a un... Ouais.
L'idée à l'attirer sur autre chose, enfin un service qu'il va peut lui demander.
Alors ce qui est important, c'est ce que vous allez dire, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une différence... entre, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que là, est-ce que vous auriez du feu ? Ok. Et puis derrière, est-ce que vous avez 20 centimes ? Les techniques de communication engageante, c'est est-ce que tu voudrais bien signer une charte pour être un randonneur responsable de manière à faire de la randonnée responsable ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la communication engageante, si on veut respecter une déontologie et une éthique, il y a un lien entre l'acte initial, l'acte préparatoire initial, et l'acte final demandé. Ce qui n'est pas le cas dans ces techniques de manipulation. On veut vous faire agir, donc on agit sur l'autocontrôle. Est-ce que tu peux donner ? Ben oui, on agit sur ça. Mais derrière, c'est pour demander autre chose. Alors, d'autres études, ça c'est le livre 2. Là, c'est pareil, c'était une autre étude pour donner de la monnaie. Dans le contrôle, on retrouve nos altruistes, des fois pas, bon, mais en l'occurrence, souvent, on le retrouve. Si on dit « vous êtes libre d'eux », on passe à 59%. Si on dit « vous êtes libre d'eux plus ne vous sentez pas obligé », on passe à 69%. C'est-à-dire que, est-ce que vous auriez 20 centimes à me donner, mais vous êtes libre d'eux de ne pas le faire ? Simplement, quand on mobilise la notion de liberté pour l'individu, ça touche sa perception de « est-ce qu'il est en capacité » d'être acteur, et là, être acteur, c'est refuser, eh bien, dans la plupart des cas, 70%, il l'accepte. Dès qu'on met l'individu en situation de liberté, on va aller chercher dans la compréhension du comportement la notion, là, qui est l'autocontrôle, la capacité à se dire « Oui, je peux agir, je suis libre de... Je peux toujours refuser, et c'est parce que je peux toujours refuser que la probabilité d'accepter s'accroît très largement. » C'est pour ça qu'effectivement, quand on met la communication engageante, on évite d'avoir des injonctions et des sanctions et des réglementations, parce que du coup, ça va à l'encontre de ça. Voilà, et j'ai... Bon, celle-là, on peut passer sur ça, la même chose. Pardon ?
Commencer une communication, si ça t'intéresse. J'ai cette info. Enfin, je ne parle pas de rien... Si ça t'intéresse.
Oui, et alors, du coup ?
Ça interpelle dans le sens de la liberté de...
Oui.
Ou pas.
Alors, je passe sur celle-là. Ça, c'est... je vais vous montrer celle-là, pardon. Ça, c'est la porte au nez. Donc, il y a le pied dans la porte. Je demande peu pour avoir beaucoup. Donc, acte préparatoire pour le comportement final. Dans l'autre technique de manipulation les plus... l'autre plus connu, c'est la porte au nez, c'est-à-dire je demande beaucoup pour avoir au final le comportement attendu, accompagner des délinquants au zoo pendant 2 heures la semaine suivante, ça c'est ce que j'attends. Mais initialement, je dis aux gens, accompagner des délinquants au zoo pendant 2 heures par semaine, toutes les semaines pendant 2 ans, là tout le monde dit non. Ah mais non, c'est pas possible, etc. Et après on leur demande, mais est-ce que tu accepterais au moins une fois d'accompagner des délinquants pendant 2 heures la semaine suivante ? Et là on a 50%. Donc l'autre technique dérivée de la communication engageante, qui est une autre technique manipulatoire, c'est que je demande beaucoup pour avoir peu. C'est-à-dire, en gros, je viens dans un lieu, on me dit, ben voilà, demain, il va falloir que tu nettoies les vitres et en même temps le plancher, et puis que tu éteignes je sais pas quoi, etc. etc. Oh là là, non, c'est pas possible. Bon, ok. Alors, juste du coup, trier tes déchets. Ah ben oui, ça, j'accepte. Voilà une autre technique manipulatoire qui est née des techniques de communication engageante. Et ça, il faut en avoir conscience. Parce que c'est évidemment là où se pose la question de l'éthique. Est-ce que je fais quelque chose qui va manipuler l'individu, ou est-ce que je fais quelque chose qui est lié, ce que je lui fais faire comme acte préparatoire, est-ce que l'acte final, eh bien, évidemment, est au service de l'intérêt général du bien commun. Voilà.
C'est toujours de la manipulation dans les deux cas.
Tout à fait. C'est la question de quelle intention derrière. Et au service de quoi ? À condition, évidemment, qu'on lui explique les bonnes raisons. Et quand il n'y a pas de bonnes raisons expliquées, c'est l'avantage de la communication engageante, eh bien, ça crée la compréhension du pourquoi. Mais on peut dire qu'on a manipulé l'individu, mais dans ces cas-là, on manipule l'individu tous les jours, à toute occasion, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour... Terminé, j'ai utilisé les 5 minutes accordées par Marjorie.
Moi, j'avais une question sur comment faire coexister la communication engageante avec, sur des sites où on a des fortes contraintes réglementaires. On a un très bon exemple juste derrière.
Ouais.
Il y a certains week-ends, on est à, les altruistes sont peu nombreux.
Ouais.
On est à 80% de réfractaires.
Ouais.
Et là, on voit bien que la communication engageante elle a des limites.
Oui. Voilà. Donc,
et en fait, c'est à géométrie variable, il y a ce qui pose des questions, des problèmes pour les gestionnaires.
Ah oui, oui. Alors ça, évidemment, on ne peut pas répondre comme ça, là. Parce qu'il faudrait regarder qu'est-ce que vous faites en matière de communication engageante. Est-ce que ce que vous faites ou ne faites pas en matière de communication engageante pourrait se substituer au réglementaire ? Mais si vous faites coexister sur un même site quelque chose qui relève d'une communication du coup, où l'individu est libre d'eux et en même temps vous lui mettez une injonction réglementaire, évidemment ça ne va pas marcher, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut expérimenter, il n'y a que ça qui est possible, hein, c'est comme ça que l'on fait, il faut expérimenter le fait qu'on n'a que des pratiques de communication engageante qui restent l'individu libre, mais on n'a pas de réglementaire. Parce que sinon, effectivement, on crée de l'injonction paradoxale qui fait que bon, d'un côté, on me dit « tu es libre d'eux », mais en même temps, si je ne respecte pas le truc, j'ai un PV, quoi. Là, ça ne marche pas dans la tête de l'individu. Mais, à un moment donné, face au risque pour se protéger, pour anticiper, face à l'expérience, bah, évidemment, à un moment donné, on passe au réglementaire... Parce que la communication engageante ne peut pas non plus agir comme ça et sur tout le monde et tout le temps.
Il n'y a aucune expérience en France de communication engageante au service du respect des réglementations.
Non, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est une bonne question et il n'y a que l'expérimentation qui... L'analyse de ce que vous faites en matière, ce que vous appelez communication engageante, évidemment, parce que du coup. Mais il n'empêche que toutes ces techniques-là, hein, y compris les nudges-là, n'excluent pas à un moment donné de passer au réglementaire si pour X raisons, là évidemment il faut rentrer dans le détail, pour X raisons qui fait que de toute façon on n'a pas d'autre solution. Parce que bah, il faut gérer le je sais pas quoi, etc. etc. quoi. Mais là, il faut vraiment travailler.
Et est-ce que l'explication scientifique d'une réglementation, et commencer par ça, ça ne peut pas être aussi une bonne chose. C'est-à-dire, par exemple, dire parce que on vous demande de.
Alors, bien sûr que l'explication du sens, du pourquoi, etc., sera nécessaire, mais dès qu'on est sur du réglementaire, hein, la peur du gendarme, si on met les deux en face à face, ça ne marche pas, quoi. Dans la tête de l'individu, du coup, mais on me dit que tu es libre, et en fait, après, il y a la réglementation, donc ça ne marche pas, même y compris l'explication, la pédagogie sur la réglementation. On l'a vu avec la Covid, hein, c'est-à-dire qu'avec la Covid, on a utilisé toutes ces techniques-là, et quand même, il s'est trouvé quelqu'un qui a dû dire « Oui, mais quand même, on ne sait jamais, il faudrait mettre un truc si, et un PV si les gens ne respectent pas le truc. » Bon. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un politique, un haut fonctionnaire qui a dit « On ne peut pas s'empêcher de mettre de la réglementation. » Et voilà. Et donc, on a eu les deux. Mais comme au début, incertitude, méconnaissance, on ne savait pas. Donc du coup, on s'est plutôt fié aux médecins, aux chiffres, etc. Du coup, on n'a pas regardé vraiment les interdictions. Au fur et à mesure, on a commencé à voir que, évidemment, ce qu'on nous racontait, c'est peut-être pas tout à fait la vérité, etc. Et là, ils ont vu que le taux de non-respect augmentait. Donc là, ils ont mis la réglementation, quoi. Mais ce qui était débile. Bon, mais c'est un autre débat. Pas d'autres questions ? Oui. Alors, ce que nous apprend la psychologie sociale, les chercheurs, c'est que la permanence du comportement, une fois qu'on a fait faire un acte préparatoire, mais en même temps qu'on a donné l'information, la communication pour dire pourquoi il faut faire, c'est-à-dire que votre communication sur respecter la montagne, etc., dans tous les cas, elle est utile. Je ne sais pas si vous avez des flyers enfin, qui expliquent le pourquoi du comment, quels sont les enjeux. Ça, c'est utile. La permanence du comportement est estimée par les chercheurs entre 3 à 6 semaines. Ça veut dire que si on veut faire changer le comportement d'un individu sur des sujets bien précis, il va falloir effectivement multiplier les situations tout en travaillant sur... l'imaginaire, sur les récits, sur la communication qui va autour. Et donc là, il y a un gros travail, effectivement, de communication d'information relié aux actes préparatoires pour faire changer et surtout, pour créer les intentions, les opinions et les croyances qui sont nécessaires. Ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler par plein de campagnes d'information, de communication liées, ce que vous faites, pour montrer pourquoi ces comportements-là sont au service du bien commun, etc. Mais ça veut dire que c'est dans la durée, ça. Et c'est souvent là où le bas blesse. C'est-à-dire que si on fait une campagne sur un sujet et que ce thème-là n'est pas reproduit, alors du coup, fort heureusement, ça change un peu, mais n'est pas reproduit dans les médias, n'est pas reproduit dans les films, dans les séries... Voilà, bah, du coup, nos attitudes, nos croyances sur le sujet ne vont pas perdurer, en tout cas pour le grand nombre. C'est pour ça que les médias et la télévision, mais aussi les médias, travaillent aujourd'hui, sont formés, travaillent aujourd'hui sur comment créer des nouveaux récits, comment créer des nouveaux imaginaires qui soient évidemment plus alignés à la transition écologique pour créer ce substrat commun de nouvelles croyances sur la question environnementale. Et alors, France Télévisions fait très, très bien ça depuis quelques temps déjà. Il y a des séries, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais 1, 2, 3 Soleil, par exemple, qui est la petite série du soir là, sur France Télévisions. Hein. Ils introduisent dans les propos et dans les scénarios, des bonnes pratiques en matière de transition écologique. Et c'est fait intentionnellement. Dans la série Hugo, Alex Hugo, qui se passe en théorie dans les Alpes-Maritimes, je crois. Ils ont travaillé pareil pour introduire la nature, le respect de la biodiversité, le respect de la relation à l'autre dans les scénarios. Et ça de manière intentionnelle pour créer ce substrat culturel des croyances nouvelles sur des bonnes pratiques liées à la transition écologique. Et si on n'a pas ça, c'est-à-dire que si on vous fait une bonne pratique quand vous êtes sur le site, mais que par ailleurs vous... vous avez un film ou des amis qui vous disent « Tiens, est-ce que tu as vu ce, cette série où, avec un gros 4x4, il va en montagne, bah, l'effet, du coup, à un moment donné, sur le long terme, ne va pas fonctionner. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer, hein, dans la puissance des nouveaux récits à imaginer, c'est comme ça qu'on parle, hein, des nouveaux récits, de nouveaux imaginaires à faire partager, pour construire de nouvelles croyances sur les différents sujets qui vous occupent. Et quand on est à l'échelle d'un territoire, d'un département, d'une communauté de communes, etc., etc., si on ne construit pas par la narration, par la communication, ce substrat, ces nouvelles croyances, eh ben on fait des one-shots qui peuvent avoir une efficacité ponctuelle, mais pas nécessairement sur la durée, quoi. Sachant qu'on aura quand même nos 20-30% qu'on n'aura jamais, quoi. Donc ce travail de fond sur un département, sur un territoire, à l'échelle de la France, c'est un travail qui a commencé, mais très très tardivement, quoi. On est en 2024. Alors, à l'échelle d'une demi-génération, quoi. Ben oui, oui, oui. Oui, ben, le problème, c'est que normalement, on joue pas 2024, enfin, à part les JO, quoi. Mais on joue 2030, 2050, 2100, quoi. C'est ça qu'on joue. Donc, si il n'y a pas cette prise de conscience de construction culturelle différente pour nourrir ce qu'on vient de voir, ah ben, chaque fois qu'on remet ça à demain, on remet ça à demain, quoi. Mais lui, le climat n'attend pas, quoi. Et ça, cette prise de conscience-là, elle est très récente. Dans les médias, évidemment. Dans les séries, ça démarre. Enfin, depuis 2-3 ans, hein, c'est assez récent. France Télévisions ont vraiment pris le sujet il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a 2-3 ans. Chez les élus...
Juste par rapport à ce récit commun, c'est quoi la bonne échelle pour travailler cette narration commune ? Parce que là, vous parlez des échelles nationales. Mais si on veut qu'il y ait des changements contemporains à l'échelle des territoires... C'est chaque territoire qui doit écrire son...
Ah non, 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 en l'occurrence, là, si, si, mais là, je sors de ma casquette, change ma casquette, mais là, du coup, c'est bien à l'échelle d'un, au moins du territoire départemental, évidemment, quoi. Donc si chaque territoire écrit son récit et qu'il n'y a pas de coordination, alors là, c'est ce qu'on a déjà fait, vous avez déjà fait, donc vous voyez le résultat.
Bah. Oui, parce que le risque, c'est de créer du prêt-à-porter, quoi. Si on se met tous à créer nos petits questionnaires, nos machins... Ça va être complètement artificiel. Quoi, hein. Il faut vraiment qu'on ait une logique de territoire. C'est pour ça que la Gdésie s'en parle du sujet. Hein.
Alors, ponctuellement, ça va aider à. Très clairement, les nudges, la communication engageante, ça va aider à, quand même, ponctuellement. Mais évidemment, ça ne crée pas ce récit ou ce méta-récit à l'échelle d'un territoire. Et bon, au niveau national, c'est le minimum. Au niveau mondial, c'est la difficulté que l'on a aujourd'hui, quoi. Même si il s'y emploie, mais c'est pas gagné, quoi. Voilà, là j'ai un peu sorti du sujet quand même, évidemment.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au permis ? On passe à le volet suivant. Bon, c'est un gros chantier, hein.
Ah oui, oui, oui.
Hein. C'est l'impression que ça donne, en tout cas.
Ah, oui.
On dit qu'il y a quand même du pain sur la planche et que c'est la part de tout, c'est à toute échelle, en fait.
Oui, oui, et ça s'organise, ça se planifie. A contrario des nudges, hein, donc vous pouvez faire des nudges, c'est qui est du côté un peu opératoire, mais quand on veut aller beaucoup plus loin, c'est vraiment des grands enjeux. Quoi. Ça va ? Est-ce que du coup, ça vous a intéressé ou pas ? Parce que du coup, c'est un peu rude, peut-être pour un mercredi matin quand même, parce que du coup, la théorie de la prédiction voilà, comportementale, là, de l'action raisonnée, plus précisément, ça vous a intéressé ? Oui ? Du coup, vous allez pouvoir peut-être mettre ça en œuvre dans vos pratiques. Voyons qui pourrait lever la main. Marjorie, chère madame, c'est fini pour moi.